18h06, notre prochaine invitée n'a besoin d'aucune présentation. Marie-Pierre Morin, bienvenue en studio.
Merci.
On est là avec Catherine Beauchamp. Et écoute, t'es une personnalité fascinante parce que, je te l'ai déjà dit dans une entrevue à Deux Hommes en Or, tu sais, t'as été comme plusieurs personnes qui ont commencé dans une télé-réalité et bang, t'as pu t'éjecter de ce carcan-là, de ce moule-là.
Éjecter.
Non, mais exactement.
Fois 10 000.
Puis, tu sais, t'as commencé comme une personnalité de télé-réalité, puis t'es rendu une artiste multidisciplinaire. Disons ça comme ça, là, animation, le jeu. On t'a découvert maintenant dans le jeu. Pensais-tu un jour avoir une carrière comme ça?
Mais non, puis tu sais, je réponds toujours la même chose. Puis, je me rappelle pas, j'ai fait une entrevue récemment. Ah, je pense que ça finit bien la semaine. Et je pense que c'est José Godet qui me disait, tu sais, t'es go-getter, t'as un plan, mais j'en ai pas de plan. Puis je pense que c'est la raison pour laquelle mon parcours est si atypique, c'est que je sais jamais où est-ce que je m'en vais. Moi, je suis les opportunités et je suis surtout mon instinct. Parce qu'on nous propose des projets des fois que je fais, pas sûr. Ce qui a fait en sorte que l'année dernière, j'ai pas fait de show à la télé de l'année parce que je le sentais pas.
Il y avait rien qui convenait à tes goûts?
Mais c'est parce que moi, je me disais, le projet que je vais faire sera celui qui va succéder à la chute. Et je trouvais que fallait qu'il y ait une...
La chute de l'Empire américain.
Oui, la chute de l'Empire américain, le film que j'ai fait avec Denis Arcand. Puis je trouvais que ça prenait une constance ou du moins une suite logique. Tu sais, je me voyais pas aller faire un show de variété, de même. Fallait que moi, je m'amène ailleurs parce que je trouvais que je l'avais fait avec cette expérience-là. Puis j'avais envie aussi de pousser la machine, d'où l'idée du documentaire. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait, je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse là, en tant qu'expérience humaine, pas tant en tant que projet qui sera diffusé.
Le documentaire, tu veux dire...
Mais pourquoi? À Z.
Ouais.
Parce que là, la diffusion sera en octobre, donc le variété va rentrer avant. Mais ce que j'avais envie de faire à ce moment-là, c'était quelque chose qui allait solliciter mon cerveau et ma présence humaine et mon implication émotive. Fait que c'était un peu ça. Fait que oui, je suis étonnée, tout le temps. Je suis toujours un peu surprise de ce qui se passe. Puis c'est ça. Il y avait un point à ma phrase.
Mais le documentaire, mais pourquoi?
Ouais.
C'est que tu t'es un peu mise dans différentes situations. C'est 6 épisodes.
Ouais.
Et tu vas faire toutes sortes d'expériences, entre autres du fitness.
Ouais.
J'ai vu des photos.
Ouais.
Te trouvais-tu belle à la fin, à la compétition?
Non. Ben non. C'était beaucoup. Là. C'était très intense. Puis avec la déshydratation et tout ça, t'as un corps qui ressemble plus vraiment. Moi, quand je regarde ces photos-là, on dirait que c'est pas moi, parce que clairement, j'ai pas cette shape-là. Mais au moment de le faire, puis l'entraînement, puis les sacrifices, puis manger, puis être au... T'sais, vraiment, là, t'sais, tout est pesé. Il y a quelque chose dans cette espèce de côté militaire là, qui est excitant de dire je prends un contrôle sur mon image physique, sur mon corps, et je pousse la machine. J'ai compris l'espèce de folie qu'on peut développer par rapport au fitness. Est-ce que je suis en accord avec ça? Il faudrait écouter l'émission pour le savoir. Mais ça a été... C'est ça. Chaque thème arrivait avec ses challenges, avec son nouveau défi émotif, physique, personnel.
Ça fait congeler tes ovules.
Oui.
Ça paraît que ça ne s'est pas très bien passé.
Non. Ça a été un peu catastrophique, en fait.
Pourquoi ça a été catastrophique?
Encore là, j'ai goût de te dire qu'il faudrait regarder l'émission pour comprendre. Mais moi, qui est une hyper-performante... Ouais. Mon corps m'a vraiment laissé tomber.
Tes ovules ne performent pas assez? Ouais.
Attends, je ne connais rien là-dedans. Comment ton corps peut te laisser tomber par rapport à tes ovules?
À 32 ans, je devrais être dans mon pic de
fertilité.
De fertilité. Ouais. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. Mais est-ce que c'est un mauvais cycle? Est-ce que c'était un mauvais mois? Est-ce que parce que j'étais stressée, parce que tout le processus était documenté, est-ce que ça a eu un impact? Sur le fait que ton corps veut que ça marche, je sais pas. Mais ça n'a pas donné les résultats escomptés, en tout cas.
Et t'as posé nu, puis ça, je pense que ça doit être l'affaire la plus facile que t'as fait pour ton documentaire, non?
Et Christine, non.
Pour vrai? T'étais modèle pour de l'art, c'est pas...
Mais c'est quoi? Au début, je pensais que ça allait être vraiment dur. Puis finalement, ça a été probablement une de mes expériences de femme les plus enrichissantes et les plus... Je me suis sentie complètement élevée.
Donnez-nous le contexte. Là. Tu poses nu pour...
Parce que moi, je me suis questionnée sur la place de la nudité dans notre société et pour aller vraiment dans j'avais envie de toucher un peu à tout. Puis je me suis dit, tu sais, le corps de la femme est peint et dessiné, et ça depuis le début des temps.
Probablement que le premier dessinateur a voulu dessiner ça.
Et les artistes qui étaient présents nous ont dit, tu sais, on aime ça peinturer ou peindre ou dessiner des pommes. Mais à un moment donné, il y a quelque chose aussi dans la courbe du corps et dans le galbe d'une femme qui inspire, et il y a une vision aussi à travers ça. Fait que, aussi de découvrir la nudité à travers les yeux des autres, mais pas dans un aspect sexuel, mais vraiment juste dans un aspect de courbe. Il y avait quelque chose de très beau et de très sain là-dedans. Fait que j'ai aimé ça, mais il y a quelque chose que j'ai fait que les gens ne savent pas, qui vont un peu tomber en boule de chaise, mais c'est bon.
Puis là, tu ne vas pas le dire.
Non.
OK, mais Marie-Pierre Morin, cette série documentaire-là, Canal Z, j'imagine que tu es très en demande en télé, que tu as souvent des projets qui te sont présentés. Et je sais ce que ça représente, une série documentaire. Oui. C'est beaucoup de tournage, c'est beaucoup de plages dans un horaire.
Je veux dire, 6 mois.
Tu préfères beaucoup plus de sous et beaucoup plus de visibilité en faisant autre chose.
Oui.
Pourquoi tu t'es donné ce trouble-là? Qu'est-ce que tu avais à prouver?
Mais parce que, check, m'a dit la vraie réponse. Là. Moi, je suis chanceuse parce que financièrement, en ce moment, grâce à des partenariats que je fais avec des marques, ça me donne une liberté infinie de faire les projets que j'ai vraiment envie de faire. Puis les partenariats de publicité que je fais, c'est pas de la prostitution, parce que c'est vraiment des projets ou des marques que j'aime profondément, que où j'étais cliente avant même qu'on m'appelle, où c'est des marques que j'endosse le message, le tout ce qui vient avec. Puis il y en a que c'est payant, il y en a que c'est payant moyen, mais ça fait aussi en sorte que ce salaire-là, qui est là, me permet après ça de dire hey, moi, j'ai le goût de travailler 6 mois sur une série documentaire qui donne pas une scène, ou tu sais, qui est pas vraiment payante, parce que je trouve que l'intégrité du projet est hallucinante.
Ça te permet d'aller vers ce qui te fait triper.
En fait, ça me permet de faire ce que je veux.
Mais tu sais, quand tu dis ce sont des marques qui me font triper, puis on voit que tu as plusieurs partenariats. Là. Je veux dire, il se passe pas un mois sans que je vois pas un nouveau partenariat qui te concerne.
Mais c'est les mêmes souvent. Tu sais, Buick, ça fait 4 ans.
Mais Buick, là. OK. Buick, pour moi, là, c'est des autos de personnes âgées. OK? Dans mon imaginaire. Toi, là, tu te serais associé avec
Mais
Buick.
Tu sais pourquoi?
Si. J'ai aucune idée.
C'est pourquoi. Pas
pourquoi? Je sais pas. Moi, je te vois dans un autre type de véhicule.
Non!
Tu comprends?
Mais non! Parce que moi, j'aime pas ça, les chars. Moi, je m'en fous des chars. Et j'ai toujours dit à mon agent, j'en ferai pas des maudites pubs de chars parce que j'ai aucun intérêt envers ça. Ça m'ennuie, comme je peux pas vous dire. Mais mon grand-père, Auriel, qui est mon ange gardien, qui est celui qui gère le petit Jésus en haut parce que c'était un homme qui était malin, au-toué de là, et qui aimait les affaires de luxe. Okay. Et les affaires qui étaient, tu sais, les objets de grande qualité.
Comme des Buick.
Un peu. Moi, dans ma tête de petite fille, là, un Buick, c'était mieux qu'une Mercedes et une BMW combinée, parce que mon grand-père, il disait, ça, des Buick, ça, c'est des bons chars. Ça, les Buick, là, ça.
Mais t'as quand même rajeuni la marque. Là.
Mais attends, moi, là, j'aurais dit non à toutes les marques. Mais quand ils ont appelé, puis mon agent m'appelle, il dit, Buick, veulent t'avoir, j'ai fait, c'est pas vrai, Colis. J'ai dit, c'est grand-papa Auriel, parce qu'il veut que je sois d'un bon char.
C'est OK, t'as vu
ça.
Un signe.
Mais oui.
T'as vu un signe céleste.
Je te jure que c'est ça. Grand-papa a dit toute sa vie, Buick, bon char, tu changes pas ça. Buick, là, ça, t'achètes ça, là, t'es bien, là, ça, c'est sécuritaire, c'est beau, ça marche bien, ça, des Buick, tu te trompes pas avec ça.
Ben, ça, je te dis, c'est un char de vieux.
Mais, sais-tu quoi? Le petit Buick, là, parce que moi, c'est le même, je l'appelle, c'est mon petit Buick, parce qu'il se parque bien, parce qu'il est tout petit. It's cute, it's compact, and it belongs in the city. C'est ça, je disais en anglais, je trouvais que j'avais l'air folle raide. Mais je l'aime. C'est vrai, c'est un petit char que j'aime. Puis le monde, il me voit dans la rue, il me klaxonne. Il est beau, ton petit Buick. Ça me fait rire, mais je l'aime. Fait que, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je suis bien dans mon petit char. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai dit oui. Si mon grand-père n'avait pas conduit des Buick.
OK. Parce que les autres marques, je comprends la convergence entre ta personnalité et les autres marques, là, généralement. Là. Mais Buick, ça m'étonne.
Mais tu ne me verras jamais vendre une autre marque de char.
Jamais.
Jamais.
OK. Ce ne sera pas Toyota dans.
Mark my word.
OK. Parfait.
Mais non, j'en ai rien à foutre des chars.
Catherine?
J'ai rien à ajouter là-dessus.
On te garde, on va aller à la pause. On finit l'émission
on
avec toi.
Vous me garder.
Oui, t'as bien fait ça. Tu mérites de revenir après la pause. On va avoir d'autres questions. Peut-être un peu plus brûlantes.
OK, à tantôt.
18h19, elle est arrivée en studio avec des bulles parce que c'est vendredi. On la remercie. Et là, elle vient de faire couler son verre de bulles.
Mais je vais ramasser parce que je suis une fille propre.
On va s'arranger avec ça après.
Mario Langlois, Mario Langlois va nettoyer avant d'entrer en studio
avec
les amateurs
dîner.
De sport. Marie-Pierre, écoute, le côté éco-vedette m'intéresse pas tant que ça, mais le côté vie publique m'intéresse. Tu t'es séparé de ton chum, qui était un ancien joueur de hockey, Brendan Prost. Et parce que vous étiez un couple public, ça a été public. Est-ce que pour toi, il y a comme une leçon pour une prochaine relation? Est-ce que tu décides que la prochaine relation va être, disons, moins vécue publiquement?
Non.
Ça change rien?
Ça change rien. Ça change rien parce que je n'ai jamais vécu ma vie pour les gens. Dans le sens où moi, si... Puis je pense que les gens le voient, le comprennent aussi dans la façon que j'agis, de ce que je dis. J'ai pas beaucoup de filtres. Je suis assez honnête, je suis assez transparente. Après ça, tu sais, ce que nous, Brendan et moi, on a vécu en arrivant à Montréal quand lui s'est mis à jouer avec le Canadien.
Mmh. Parce que tu sortais avec lui avant.
Oui, tu perds un peu le contrôle. Mais ma prochaine relation, là, ce sera autre chose. Ce sera une autre histoire. Puis tu sais, là, ça fait une semaine qu'on a annoncé notre séparation. J'ai pas tant envie d'en parler, là, pour être bien honnête. Je trouve que c'est quelque chose qui m'appartient, qui nous appartient. Après ça, je comprends qu'il y a tout le volet public parce qu'on est connus tous les deux. Je pense qu'on devait au moins des explications aux gens qui nous suivent, qui nous supportent depuis plusieurs années.
On vous a vu vous marier aussi. Il y a eu beaucoup d'étapes où on vous a vu ensemble.
Mais après ça, la suite, c'est personnel. Puis les gens...
Les gens ont été respectueux, il me semble.
Les gens ont été super respectueux.
Parce que je t'ai vu en tournée partout, puis tu te fais pas trop achaler avec ça.
Non, puis les gens dans la rue, là, sont fins, sont gentils, sont d'une douceur et d'une empathie vraiment spectaculaire.
C'est très québécois, ça.
C'est très québécois. Ouais. Et là, je suis convaincue qu'il y a des gens dans l'auto qui se disent « Moi, ils parlent de ça, c'est tellement intéressant, puis je suis d'accord avec eux autres.
» Mais avant qu'on...
Mais c'est vrai. Tu sais, il y a tellement d'affaires qui se passent dans nos vies, dans la société, ouais, qu'on parle d'une rupture. Je veux dire, moi, je vis ça dans mon quotidien, ça m'appartient, j'ai la peine que j'ai. Mais après ça, on avance, là. Tu sais, moi, j'ai des projets, j'ai d'autres choses, puis je suis pas insensible, mon Dieu, si vous saviez. Sauf que qu'on parle de ça en ce moment... Je trouve ça plat.
Mais avant qu'on quitte le sujet, quand il faut l'apprendre aux gens, la journée où tu... Est-ce que vous planifiez comment, tu sais, il faut que tu orchestres une séparation publique? Ça doit être quand même difficile de dire c'est ben, aujourd'hui moi, ça que s'est... ça sort.
Non, moi, ça s'est fait. Brendan a décidé qu'il l'annonçait, puis moi, j'ai réagi par la suite en disant OK, là, il a décidé que c'était un matin que ça sortait. Moi, je l'ai suivi. Mais, mais c'est tout. Il n'y a pas de stratégie, hein.
Non.
Parce qu'on reste des humains. Là. Il y a ça aussi, des fois, que les gens oublient.
Oui, bon. Des fois, il n'y a pas nécessairement un bataillon de relationnistes, etc. Hey, je veux que tu me parles de Studio G, un nouveau show à TVA. Oui, non.
Ça commence dimanche.
Oui. Ça commence dimanche. Et écoute, je vois ça comme un mélange entre En direct de l'univers et une sorte de bien cuit. Est-ce que je suis dans le champ?
Non. Cependant, quand on a créé le show, parce que de créer un concept original, tu le sais, t'en as vécu, t'en as fait, c'est un travail de longue haleine. Et à chaque fois, en table de brainstorm, on se dit « OK, ça, c'est un bon flash. Non. »
Puis trop... tu l'essayes dans le laboratoire, puis ça marche
c'est,
pas.
Non, c'est trop en direct de l'univers. Non, ça, c'est trop prière. Ça, c'est trop première fois. Ça, c'est trop... Tu sais, on a des très, très bons shows de variété au Québec. Et c'est difficile d'arriver avec une proposition différente. Et à chaque élément qui ressemblait un petit peu, je faisais... Non, ça me tape ses nerfs, il faut enlever ça. Je pense que nous, on est allé dans quelque chose de très fluide. Moi, je voyais là, une table de discussion, pas de segment. En fait, on ne l'a pas imaginé comme un show de TV. On l'a vraiment imaginé comme un party. Tu sais, quand tu t'organises, mettons, le 40e de ton ami ou le shower, on se dit, ma mère qui me FaceTime. Tu sais, pas au courant que sa fille a fait de la radio.
En tout cas, on sait qu'elle ne nous écoute pas.
Ben non, elle ne nous écoute pas. Hein. Et on s'est dit, OK, qu'est-ce que ça prend? Bon, ça prend telle personne parce qu'on sait qu'il aime beaucoup. Ça prend telle personne parce qu'on sait que c'est un malade mental puis qu'il va faire lever le party. Ça prend, cet artiste-là qui capote dessus. Ça prend sa musique. Ça prend des gin tonic parce que lui aime le gin. Ça prend des sandwichs au poulet parce qu'il capote là-dessus. Fait que c'est juste de tout faire pour que la personne elle soit bien, pour juste mieux la lyncher après.
mais difficulté de première saison aussi, c'est-à-dire que les gens que vous invitez, ils ne savent pas c'est quoi le show, non. Ils ne savent pas comment sont supposés d'agir. Fait que ça, j'imagine que ça se règle au montage, mais c'est une difficulté supplémentaire.
C'est une difficulté supplémentaire, mais en même temps, on n'est pas là pour mettre personne dans l'embarras, on est vraiment là pour la célébrer. Puis moi, ce que j'aime, en fait, de ce qu'on a réussi à faire, c'est de découvrir un artiste à travers les yeux de sa famille, de ses amis, qui, eux, sont pas dans le contrôle de l'image. T'sais, fait que si moi, là, Catherine, c'est ma grande chum, puis je me rappelle d'une brosse qu'elle a virée à Cannes, c'est sûr que moi, je vais arriver, puis il faut que je le compte parce que ça me fait trop rire. Mais elle en a trois sur moi des histoires encore plus gênantes. Fait que c'est sûr que tu resteras pas passive à dire, mais oui, m'en faire humilier. Toi, m'en vous dites, attends peu.
J'adore ça.
Le mardi, là, le lendemain, que moi, toi, Fait que c'est sûr
que j'ai vraiment hâte d'entendre cette histoire de brosse-là.
Mais premier invité, c'est Charles Lafortune.
Et on va découvrir des affaires vraiment trippantes. Mario Dumont est exceptionnel. Guy Jodoin, Sophie Préjean.
Si vous faites Pat Lagacé, j'aimerais ça le raconter des anecdotes sur lui.
Merci, ah oui, Marie-Pierre. Hein? Merci.
J'en prends bonne
écoute,
note.
Écoute, toujours disponible pour la TVA. Un excellent week-end. C'était Patrick Lagacé avec toute l'équipe. Merci, Marie-Pierre. Merci, Catherine. Deux.